vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et aujourd'hui d'étudier l'un des premiers enseignements du bouddhisme qui est connu sous le nom des quatre vérités. Alors les quatre vérités, donc je l'ai écrit ici à la fois en français et en chinois. Les quatre vérités sont probablement, dans le chronologiquement, l'un des premiers enseignements du bouddhisme. Comme je vous l'avais dit la fois dernière en parlant du personnage du Bouddha, c'est quelqu'un qui a été un pédagogue hors pair. Et donc, ce premier enseignement des quatre vérités, on pourrait dire, manifeste la frontière entre ce qui est de l'ordre du bouddhisme et ce qui ne l'est pas. Donc c'est un premier enseignement du bouddhisme, c'est loin d'en être l'enseignement le plus profond. Par la suite de ce qui a été enseigné dans le bouddhisme, il y a même des choses, d'une certaine manière, on ne pourrait pas dire qui le contredisent, mais enfin qui énoncent les choses d'une manière extrêmement différente, mais c'est un enseignement qui était destiné à un auditoire non bouddhiste. Donc pour ces personnes-là, il fallait arriver d'entrée de jeu avec des notions qui leur soient compréhensibles, mais en même temps qui puissent beaucoup les faire évoluer. Donc vous voyez qu'on est tout à fait dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cet enseignement des quatre vérités donc, et d'autres enseignements bouddhiques sont dans la terminologie du bouddhisme, ce qu'on appelle des doctrines de l'adaptation à autrui. C'est-à-dire que c'est des choses où le Bouddha enseigne en fonction de son auditoire et en fonction des capacités de cet auditoire. C'est-à-dire que le but est de faire évoluer les personnes en leur amenant quelque chose qui pour eux est acceptable, et compréhensible parfois au prix néanmoins d'un effort important. L'autre forme d'enseignement, celle qui n'est pas de l'adaptation à autrui, est dans la terminologie bouddhique ce qu'on appelle l'enseignement de la pratique personnelle. La pratique personnelle, c'est lorsque le Bouddha parle, et il y a quelques textes qui réfèrent à cela, de son éveil, indépendamment de l'auditoire qui est le sien. C'est-à-dire qu'il laisse des choses, on pourrait dire, pour le futur ou pour lui-même. Et là, ce n'est pas en fonction des capacités d'auditoire. Par contre, dans toute cette première partie de l'enseignement du bouddhisme, qui est essentiellement ce que l'on fera, nous, au fil des sessions qui vont nous mener jusqu'à la fin du mois de juin, nous verrons essentiellement des choses dites de l'adaptation à autrui, c'est-à-dire des choses qui sont faites en fonction d'un auditoire. Néanmoins, ces notions des quatre vérités ainsi que celles que nous verrons par la suite sont quand même de plein pied des enseignements bouddhiques, même si la notion des quatre vérités est quelque chose qui est, on pourrait dire, limite, frontière entre ce qui est des pensées globales, anciennes de l'Inde antique et la pensée plus spécifiquement bouddhique, mais c'est quand même des choses qui sont de l'ordre du bouddhisme. On dit souvent dans le bouddhisme que la doctrine bouddhique est ce qu'on appelle la voie intérieure, le chemin intérieur, vous trouverez également dans d'autres traductions, et que donc les autres doctrines en référence sont appelées les voies extérieures. Alors voie intérieure, voie extérieure, l'une des principales raisons, donc la voie intérieure est la voie qui est intérieure, interne au bouddhisme, et voies extérieures, ce sont celles qui lui sont externes. Il y a également une autre manière de voir ces termes, qui est le fait que la voie intérieure représente un chemin intérieur, c'est-à-dire que comme vous le verrez au fur et à mesure où nous étudierons cette doctrine, le bouddhisme est une compréhension, est un chemin de compréhension de la vie, mais vous verrez qu'il ne s'appuie finalement sur aucune notion extérieure. Que ce soit Dieu, que ce soit le sens de l'histoire, que ce soit l'inconscient, que ce soit ce que vous voudrez. Mais le bouddhisme, au fur et à mesure, est, on le verra dans un cours futur, qui est un cours qui repose sur une notion qui est celle de la production conditionnée. Dans le bouddhisme, tout repose sur tout. Et en faisant de l'humour, on peut dire « et rien repose sur rien ». C'est-à-dire que dans le bouddhisme, nous apprendrons que rien n'en soit sa propre raison d'exister. La raison d'exister de toute chose est dans tout le reste à la fois. Donc c'est une pensée que nous développerons par la suite, mais qui est une pensée qui est vertigineuse. Alors donc, comme je vous l'ai dit, cet enseignement des quatre vérités est destiné à un public, un auditoire non bouddhiste au début, parce que ça fait partie des premiers sutras. Les sutras sont les textes sacrés du bouddhisme qui reprennent les paroles du Bouddha. La plupart des sutras, d'ailleurs, commencent par la formule « ainsi ai-je entendu ». Le Bouddha, de son vivant, comme je vous l'avais dit la fois dernière, n'a absolument rien écrit. Et tous les écrits que nous avons à l'heure actuelle sur la période de son enseignement sont des choses qui ont été faites après sa mort. Dans un premier temps, qui ont été faites par des disciples, surtout l'un d'entre eux, qui était l'un de ses disciples favoris, qui avait une excellente mémoire, qui s'appelait Ananda, et qui commence par la formule « ainsi ai-je entendu », et donc souvent suivi de notions. Ainsi ai-je entendu, le Bouddha à cette époque se tenait à tel endroit, près de telle ville, il y eut quelqu'un qui vint le rencontrer, qui lui demanda, et beaucoup de textes bouddhiques commencent de cette manière-là, c'est-à-dire que les choses sont extrêmement circonstanciées. Alors, ce premier enseignement du bouddhisme est quelque chose qui est d'ordre assez pratique. C'est-à-dire que le but recherché par cet enseignement est un combat, on va beaucoup en parler aujourd'hui, contre, j'expliquerai davantage de quelle manière on peut le comprendre, mais que j'appellerai contre la souffrance humaine. C'est-à-dire que le Bouddha ne se pose pas tant en tant que philosophe abstrait, qu'en tant qu'une personne qui a résolu un certain nombre de nœuds, de problèmes, qui causent de la souffrance dans l'homme. Et il veut amener son auditoire à pouvoir résoudre également ce dilemme qui est celui de la douleur. On avait vu, lorsque l'on avait étudié la personne et l'origine du Bouddha Shakyamuni, c'est que c'est quelqu'un qui vient de la caste des kshatriyas, des guerriers, de l'aristocratie guerrière en Inde. Et je vous avais dit la fois dernière que sans doute de l'éducation qui avait été la sienne, il a gardé durant toute sa vie sans doute une constitution physique extrêmement robuste. C'était un grand marcheur. Mais je crois qu'il a gardé également une autre caractéristique. Des gens qui ont eu la même éducation que lui, c'est-à-dire cette éducation finalement de soldats, de guerriers, c'est-à-dire il a gardé une démarche extrêmement pragmatique et une démarche combattante. Ça paraît un peu étonnant à dire comme ça, parce que le Bouddha était un homme de paix, mais au moins, on verra vis-à-vis de la douleur, il y a, je pense, dans la démarche spirituelle qui a été la sienne, quelque chose de très stratégique, c'est-à-dire identification de l'ennemi, si on peut dire en termes un peu militaires, hein. Mais c'est quelqu'un qui venait de cette caste, de cette caste-là, identification de l'ennemi, voir exactement quelles sont les forces en présence, et ensuite de quoi, de quelle manière combattre l'ennemi. Et aussi une notion qui était, quand on lit la littérature indienne, qui était également extrêmement ancré, c'est-à-dire que le combat se fait dans l'honneur. Ce sont des choses qui sont souvent peu dites à propos du personnage du Bouddha, que l'on présente davantage comme une sorte de penseur un peu vague, mais je crois que chez lui, il y a vraiment, quand on lit les textes, quand on lit les choses qui sont liées même à la manière dont il répond aux personnes, la manière dont immédiatement un problème est identifié. C'est quoi qui cause problème? De quelle manière cette chose peut être combattue ou pas combattue? Et donc, il a toujours eu cette démarche très active, pragmatique et souvent assez stratégique dans le domaine philosophique. Alors, les conditions de l'enseignement de ces quatre vérités, donc qui ont été le premier enseignement du bouddhisme, du moins enseigné à un assez grand nombre de personnes, Alors, d'après la tradition, hein, donc toutes choses sans doute qui sont en partie inventées, peut-être pas en totalité, mais au moins en partie, bien longtemps après la mort du Bouddha, il se serait interrogé sur la possibilité, après son éveil, de porter à autrui le contenu de ce qu'il avait, réalisé. Il s'est demandé si l'expérience qui a été la sienne, qui est sans doute une expérience qui, pour beaucoup de choses, dépasse les mots, dépasse ce qui est communicable, est-ce que cette expérience peut être systématisée? Est-ce que cette expérience peut être amenée à autrui? Et la réponse, pour lui, n'était pas évidente. Ce n'était pas oui ou non. Il semblerait même que dans un premier temps, il ait renoncé. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que cette expérience à la fois physique, psychique, de compréhension totale qui a été la sienne est quelque chose qui n'était pas communicable et qui ne voyait pas exactement de quelle manière le communiquer. Et donc, il aurait renoncé dans un premier temps à le communiquer aux autres. Alors, toujours d'après la tradition, ça je pense que c'est sans doute très vrai. Je pense qu'effectivement, après une expérience extrêmement importante, quiconque, et qui change complètement la personne, quiconque s'intéresse, pense à la communicabilité de cette chose, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors, toujours d'après la tradition, Brahma, donc, qui est l'un des dieux du brahmanisme, d'ailleurs duquel en partie le brahmanisme tire son nom, se serait alors manifesté à lui. Je pense que peut-être dans le futur, on étudiera le système avec les différents dieux. Pour que vous ayez quand même une idée, Brahma, parmi les dieux de l'hindouisme, est un dieu à un niveau très haut. On pourrait même parler pour les hommes presque d'être suprême. Pour prendre une terminologie qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont nous traitons ici, en ce sens où théoriquement, au niveau des divinités, dans le brahmanisme, c'est le plus haut de ce que peut imaginer l'esprit humain. On ne dit pas que ce soit le plus haut de ce qui existe comme Dieu, mais l'esprit humain ne peut pas aller au-delà de cela. Et après, donc, les quelques dieux, parce qu'il y a quand même toute une cosmographie qui est faite avec les différents, ce qu'on appelle des cieux, des ciels, hein, où vivent. Les différents dieux. Par la suite, les différents dieux qui sont évoqués de manière surtout négative. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela, qu'ils ne sont pas pensables, qu'ils ne sont pas du domaine de l'espace, qu'ils ne sont pas du domaine du temps, etc. En fait, il y a différentes manières de les appeler, mais en fait, plus on monte, hein, après Brahma, et plus ces choses deviennent totalement impensables, en quelque sorte, pour l'être humain. Donc, Brahma, qui correspond peut-être à ce que dans différentes religions, on appelle Dieu, enfin, même si les notions sont quand même très différentes, et je ne veux pas, surtout pas faire de rapprochement hâtif et brouillon, est au niveau du divin ce qui serait ce que l'esprit humain, au summum de ce qu'il peut penser, arriverait à imaginer. Et donc, je crois qu'ici, dans cette manière dont Brahma se manifeste auprès du personnage de l'éveillé, du Bouddha, il vaut mieux l'imaginer non pas en tant qu'une sorte de divinité, mais comme étant justement le représentant, dans l'ordre du spirituel, de ce à quoi l'homme peut accéder de plus haut. C'est-à-dire cette espèce de fonction qui serait la fonction de ce à quoi l'homme peut accéder de plus haut, c'est cette fonction-là qui aurait demandé au Bouddha, qu'il aurait prié de néanmoins, malgré les doutes qu'il peut avoir sur la possibilité qu'il soit compris ou non, mais qu'il aurait demandé de s'exprimer auprès des hommes pour remédier à la misère du monde, à la souffrance du monde. C'est le principe dans cette espèce de dialogue que l'on trouve dans les textes entre justement le Bouddha et Brahma. Enfin, c'est un dialogue où le Bouddha d'ailleurs ne parle assez peu. Finalement, l'argument qui semble l'emporter, c'est justement l'argument vis-à-vis de la douleur du monde. Brahma donc dit au Bouddha qu'effectivement, il y a cette douleur qui existe dans le monde et que ça a toujours été le rôle des Bouddhas, même dans le passé, d'autres Bouddhas sont arrivés sur cette terre ou dans d'autres endroits, je ne sais pas. Et à chaque fois, au bout du compte, c'était pour faire que les êtres puissent s'ouvrir au vu des vérités du bouddhisme pour commencer le chemin qui permet de se départir du malheur et de la souffrance. Alors, le Bouddha, après cette intervention, a réfléchi et a imaginé ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire ce système des quatre vérités. Donc ce serait un système qui aurait été donné, en quelque sorte, sur la sollicitation de Brahma, et exactement dans ce qu'on pourrait appeler une démarche d'ordre thérapeutique, c'est-à-dire comme un médecin. C'est-à-dire qu'il y a identification du mal dont souffre le patient. C'est la première chose du diagnostic, c'est en premier identifier de quoi il souffre. Ensuite, une fois qu'on a identifié de quoi il souffre, quelles sont les causes qui ont pu amener la maladie dont souffre le patient. Parce que ça ne suffit pas simplement d'identifier d'une manière dépersonnalisée, en quelque sorte, les causes de ce dont il souffre pour immédiatement essayer de donner un remède, mais de voir il souffre de ça parce qu'il y a tel et tel dérèglement. Dès lors que ces dérèglements sont identifiés, à ce moment-là, il faut avoir en vue ce à quoi on veut amener le patient. C'est-à-dire que on veut l'amener à ce qu'il recouvre la santé. C'est l'objectif qui est poursuivi. Et une fois que, ou alors, je ne sais pas, moi, si c'est très atteint, on peut au moins l'amener à tel niveau de capacité physique. Et une fois donc qu'on a déterminé ce à quoi on veut amener le patient, à ce moment-là, on peut proposer un remède. Donc vous voyez, la démarche se fait en quatre temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va parler de quatre vérités. Identification du mal. On pourrait dire identification des causes qui créent la maladie. Ensuite de quoi l'objectif visé, pour que le patient recouvre la santé. Et ensuite de quoi la méthode, le remède que l'on va proposer pour ce faire. À partir de là, donc le Bouddha a imaginé ce système en quatre étapes, et nous verrons aujourd'hui dans le détail, parce que ça vaut la peine d'être examiné dans le détail, les deux premières d'entre elles. À partir de là, il aurait quitté le lieu qui avait été celui de son éveil, et il se serait dirigé vers Bénarès, donc qui était déjà à l'époque une ville importante et une ville sacrée, donc dans le bassin indo-gangétique. Et alors quand même, pour la petite histoire, j'ai regardé sur une carte, ça fait quand même 300 km. Donc là, il a quand même parcouru à pied. Alors, je ne sais pas exactement le temps qu'il a mis, mais tout ça ne se faisait pas forcément très vite, mais enfin, il faut quand même le faire. Il a parcouru à pied environ 300 km. C'est-à-dire qu'il voulait également rattraper, je vous avais dit qu'il avait été, il avait fait partie d'un petit groupe de personnes, d'ascètes, qui pratiquaient des austérités extrêmement dures. Et parmi eux, il y avait cinq personnes avec lesquelles il était relativement lié. Et donc, quand il a décidé d'arrêter les austérités, ses cinq condisciples se sont écartés de lui. Et il savait que ces gens-là partaient, donc c'était avant son éveil, avant cela, il savait que ces gens-là partaient pour Bénarès. Et donc, était-ce la raison pour laquelle il a rejoint cette ville importante, c'est-à-dire de rattraper ses cinq amis, ou bien est-ce que c'était parce qu'il voulait commencer son enseignement dans une ville importante, là où effectivement il peut y avoir une communication auprès d'un grand nombre de personnes? Quoi qu'il en soit, il fait une marche qui est très longue, et là, il arrive à Bénarès, et il retrouve, comme cela se faisait souvent à l'époque, il retrouve les cinq personnes dans une sorte de parc. Les ascètes, à cette époque, vivaient souvent dans les villes ou en dehors des villes, il y avait des espaces boisés, des sortes de parcs qui parfois appartenaient à certains donateurs. Et donc là, il retrouve les cinq hommes. Le parc en question s'appelle le parc aux daims. Dans d'autres traductions, je crois que ça s'appelle le parc aux cerfs ou le parc aux gazelles. Enfin, donc c'est un parc où d'ailleurs il y avait des cervidés qui se promenaient comme ça. Et là, devant les cinq hommes, il leur révèle ce que l'on va voir maintenant, c'est-à-dire ce système des quatre vérités. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps les quatre vérités en question, et puis on étudiera aujourd'hui surtout les deux premières d'entre elles. La première, c'est la vérité de la souffrance. La seconde, c'est celle de l'apparition. La suivante, c'est celle de l'extinction. Et la dernière, c'est celle de la voix, de l'octuple voix, on dit souvent, parce que vous allez voir, c'est une voix qui est en huit parties. Ah bon, juste comme ça, peut-être que ça veut pas, c'est pas extrêmement parlant. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est la démarche thérapeutique dont je vous ai parlé tout à l'heure. La souffrance, donc, c'est l'identification du mal. L'apparition, c'est quelles sont les causes qui entraînent que la souffrance existe, parce que ça ne sert à rien de traiter simplement la chose au niveau de l'effet, il faut traiter également au niveau de la cause. L'extinction, c'est le but, c'est ce à quoi on veut arriver, c'est-à-dire dès lors qu'on voit quelles sont les causes déterminantes qui produisent le phénomène qu'on appelle la souffrance, à quoi on veut arriver ? On veut arriver, donc ça on pourrait dire que c'est le but. Et ce qu'on appelle la voie, on va voir que c'est le moyen. C'est les moyens à mettre en œuvre, ou la pratique, si vous voulez, dans beaucoup de textes, c'est comme ça que c'est appelé. C'est-à-dire qu'en donnant cet enseignement, on reste dans le cadre de quelque chose qui est parlant auprès de quiconque, et en plus qui donne les moyens de lutter au niveau du cycle causal, que j'avais un petit peu évoqué les fois précédentes, qui donne les moyens de lutter contre sa propre souffrance et d'y remédier. Quand on regarde les premiers sutras qui parlent de cette affaire des quatre vérités, le texte le plus ancien que j'ai trouvé est un texte qui s'appelle le Sutra de la mise en mouvement de la roue de la loi. Donc je vais vous le lire. Il y a à peu près une dizaine de lignes. Le Bouddha se serait exprimé de la sorte devant le premier auditoire, celui des cinq moines. Ô moines, la naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, la fréquentation de ceux que l'on déteste est souffrance, la séparation de ceux que l'on aime est souffrance, la non-obtention de ce que l'on désire est souffrance, et finalement, tout ce qui touche au corps ou à l'esprit est souffrance. Telle est la noble vérité quant à la souffrance. Et maintenant, ô moines, menés dans le cycle des renaissances, nous sommes avides de joie. Partout, un désir puissant nous fait espérer plaisir et bonheur. Il s'agit de l'attachement au désir, à l'existence et à l'anéantissement. Telle est la noble vérité de l'origine de l'apparition de la souffrance. Mais, ô moines, que cette soif et ces désirs soient apaisés, sans reste, abandonné, écarté sans attachement, voilà la noble vérité de l'extinction de la souffrance. Car, ô moine, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, la progression juste, l'attention juste et la concentration juste constituent l'octuple voie qui est la noble vérité de la voie de l'extinction de la souffrance. Donc ça, c'est le premier texte dans lequel nous trouvons l'énoncé des quatre vérités, et dans lequel nous avons cette articulation dont je vous ai parlé auparavant, qui est en premier l'identification, on pourrait dire, de ce que l'on veut combattre, de l'ennemi, quelles sont les causes qui créent cet état de choses, ensuite à quoi on veut arriver, et finalement de quelle manière on va y arriver. Je crois que c'est un enchaînement en fait qu'on peut... qui est tourné vers l'action et que l'on peut appliquer à beaucoup de choses. Souvent, en fait, on réagit. Alors que là, c'est quelque chose qui est plus le domaine de l'analyse que de la réaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'insupporte, il y a quelque chose qui est douloureux, donc immédiatement j'ai une réaction contre ça. Je dis, même si ça ne résout pas les choses, au moins ça change les conditions globales. Mais, tant que l'on procède comme ça, les choses ne sont jamais résolues vraiment. La résolution, enfin je parle des choses importantes, hein, évidemment, pas de vétilles, hein, mais la résolution passe forcément par l'identification. Qu'est-ce qui me fait souffrir et pourquoi est-ce que cette chose-là me fait souffrir? C'est quelque chose qui est important. Pas simplement le fait de se dire « Oh là là, je souffre, je suis malheureux et ça m'insupportable ». Mais le fait de dire, ok, reconnaître les choses, ça me fait souffrir beaucoup. Pourquoi ça me fait souffrir moi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Maintenant, à quoi je veux arriver? À quoi je veux arriver, c'est pas forcément simplement la suppression de cette souffrance. Mais déjà, si on pose les choses comme ça crée déjà une possibilité de remise à plat, d'éloignement vis-à-vis de cette souffrance, et ça permet de traiter un peu. Alors, je m'étendrai pas beaucoup dessus, mais dans le bouddhisme, on dit que cette première chose, c'est la mise en mouvement, la mise en route, la mise en branle de la route de la loi. Donc, parce que c'est le premier enseignement bouddhique qui est donné, on lui donne le nom de vérité. C'est pour ça qu'on parle de quatre vérités, c'est-à-dire que ces quatre choses sont dites être des vérités. Alors, c'est des vérités pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est constatable. C'est quelque chose qui forme un système dans lequel il y a à la fois théorie et pratique. C'est-à-dire que du point de vue bouddhique, quelque chose qui serait uniquement théorique, ou à l'inverse, qui marcherait mais sans qu'on comprenne pourquoi, ne peut pas être qualifié de vérité. Ça ne veut pas dire qu'on dise que ça ne marche pas, mais quelque chose qui pour moi marche et j'y suis pour rien et j'y comprends rien. Bah, je ne peux pas dire, j'en ai une appréhension, c'est tout ce qu'on peut dire, j'en ai une vague idée, mais ce n'est pas quelque chose que je peux dire que pour moi ça représente une vérité. Et c'est quelque chose qui, dans cette notion de la vérité, donc c'est pour ça quand même que je veux spécifier, parce que quand même ce qu'on dit là, c'est quand même très différent de l'idée qu'on peut avoir ici de quelque chose qui est vrai, qui est une vérité. Il y a un moment donné où, à force de connaître, à la fois de connaître la chose et de pratiquer la chose, à force de connaître la chose et de la manipuler, l'aspect théorique et l'aspect pratique se rencontrent et s'effacent mutuellement. Et donc, dans le bouddhisme, ce qu'on appelle une vérité, c'est quelque chose à la fois que l'on peut comprendre et que l'on peut enfin manipuler, peut-être que le terme n'est pas très joli, que l'on peut utiliser, que l'on peut expérimenter. Et les deux choses à la fois sont importantes. C'est-à-dire à la fois la compréhension mentale et l'expérimentation de la chose. Et les deux, à la fois, doivent s'appuyer mutuellement. Et plus je comprends mentalement, et plus je pourrai expérimenter, plus je peux expérimenter, plus je comprends. Et d'ailleurs, à la fin, on dit qu'on arrive à un niveau de ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit en français, en chinois c'est wu sui, c'est-à-dire un moment où il n'y a plus besoin d'étudier. C'est-à-dire c'est un moment où on vit la chose. Il n'y a plus besoin de se livrer à une étude livresque. Elle a déjà été faite et elle a été déjà digérée. Elle fait déjà partie de notre personne. Et donc, à ce moment-là, entre l'expérimentation et l'étude, il n'y a plus du tout de différence. Les deux choses se fondent et on vit une chose. Alors, les cinq personnes, les cinq compagnons du Bouddha, quand ils ont entendu ça, donc ils sont devenus les premières personnes, quand ils ont entendu donc ces cinq vérités, ces quatre vérités auprès des cinq personnes développées par le Bouddha, ils sont devenus les premières personnes qui ont les cinq premiers qui ont formé ce qu'on appelait par la suite la communauté bouddhique, le Sangha. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais maintenant analyser ces quatre vérités une par une dans le détail, et je pense qu'aujourd'hui on aura le temps de voir les deux premières d'entre elles, parce qu'on va les voir effectivement dans le détail, parce que le but c'est de comprendre. Vous allez voir que souvent dans le bouddhisme, alors c'est vrai du bouddhisme indien et c'est encore davantage vrai du bouddhisme chinois, on va souvent parler des quatre ceci, des huit cela, des trois choses comme ceci. C'est-à-dire que les choses sont souvent définies par des nombres. Alors, ça tient à une raison qui est. Mais parfois, d'ailleurs, c'est étonnant. Hein. Je veux dire, il y a le nombre 3000, il y a 88, on verra dans le futur les 12 liens causaux. C'est-à-dire cette présence de l'arithmétique. Alors, ce n'est pas du tout que ces nombres aient des valeurs symboliques qui leur soient propres ou une sorte de choses qui seraient d'ordre arithmétique, mais c'est simplement du fait que lorsque l'on voit clairement, on peut énumérer. Et donc là, vous allez voir, par exemple, on va parler de la souffrance. Eh bien, suivant les écoles du bouddhisme, on estime qu'il y a trois souffrances, quatre souffrances, huit souffrances. C'est-à-dire que quand on voit bien ce qui constitue une chose, on peut la décomposer dans l'ensemble de ses constituants, théoriquement, sans qu'il y ait aucun constituant qui échappe à l'énumération. Presque toujours, dans le bouddhisme, quand on étudie quelque chose, eh ben, il y a des chiffres. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, c'est 12 liens causaux. Il y en a 12, il n'y en a pas 13. Les trois évidences, on verra comme ça, par exemple, à la fin de la voie, c'est l'octuple voie, elle se divise en 8. Alors, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup, je suis un peu désolé, mais on ne va pas beaucoup rigoler, hein, parce que je vais vous parler de la souffrance. Et ensuite de l'apparition de la souffrance. Donc vous allez voir que ça ne va pas être extrêmement drôle, mais enfin bon, ben, c'est des choses qui constituent la vie et qui malheureusement constituent une bonne partie. Donc la première de ces quatre vérités est la vérité de la souffrance. Alors le terme pour la désigner en chinois, les traducteurs chinois du bouddhisme, donc en indien ça se dit dukkha. Et en chinois, on a traduit par coup. On va parler du terme chinois et ensuite on parlera du terme sanskrit. Alors la souffrance, en chinois, ça s'écrit comme ça. Ça se prononce coup. En japonais, ça se dit exactement pareil. On dit coup également. L'étymologie de ce mot, en fait, il comprend deux parties. Il y a ce qu'on appelle une clé, un radical, qui est ici la partie du O. Alors, ce radical, que souvent on voit écrit comme ça, signifie des verbes. Et la partie du bas, en fait, c'est comme une croix avec un carré en dessous. Et ça signifie ancien, vieux. Alors, les deux ensemble, les verbes et ancien, ah, à chaque fois, c'est un petit rébus. Hein. Les verbes et anciens, ben, ça désigne des verbes vieilles, c'est-à-dire des verbes amers. Donc, vous savez que les Chinois étaient extrêmement, et ils le sont toujours d'ailleurs, férus de botanique, et surtout de botanique pour les usages de la pharmacopée. Et donc, depuis très très longtemps, ils avaient trouvé les vertus d'un grand nombre de plantes. Hein. Et dans le cas des herbes anciennes, donc là, ça désigne quelque chose qui, au goût, est amer, les herbes amères. Et c'est ce caractère-là qui a donné la souffrance par une sorte d'expansion du sens. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça désignait quelque chose qui est extrêmement désagréable au goût. On se retrouve avec ça dans la bouche. On pensait que c'était quelque chose de bon, et d'un coup on se retrouve avec ça dans la bouche, et c'est un truc qui a un goût qui est extrêmement amer, on veut s'en débarrasser. On se retrouve donc avec une sensation au niveau du goût qui est une sensation très désagréable. Et c'est par expansion, par inflation du sens, que ce terme a signifié la souffrance, globalement la souffrance, la douleur. Si on regarde dans le dictionnaire, on trouve à la fois l'idée de douleur et l'idée de pénibilité. C'est une chose qui est douloureuse et en même temps qui est pénible, qui dure. Le terme sanskrit, c'est dukkha. Alors, ce terme, on pourrait mieux le comprendre. En fait, c'est l'antonyme, c'est le contraire d'un autre terme qui ressemble beaucoup, qui est sukha. Sukha, ça signifie le bien-être et la plénitude. Alors donc, je vous laisse imaginer ce qu'est le contraire du bien-être et de la plénitude. C'est le mal-être, enfin, c'est le terme est peut-être un néologisme, c'est le manque, c'est la frustration. Et donc, cette notion de dukkha, alors qui est vraiment très très présente dans les premiers textes bouddhiques, c'est effectivement le mal-être, le sentiment du manque, et la notion aussi que ce sentiment du manque est quelque chose qui est propre à notre condition. Vous comprenez, ce n'est pas une pensée dans laquelle il y a une sorte d'alternance des joies et des peines, par exemple. Où on pourrait dire, bon ben voilà, il y a des jours où ça va et puis il y a des jours où ça ne va pas. Là, il y a quand même l'idée que tout le temps dans la vie, il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qu'on ne peut pas évacuer. Et que du coup, même les joies qui sont les nôtres, elles ont un arrière-goût qui n'est pas si heureux que cela, parce que de par l'existence de la souffrance, on sait que nos joies seront limitées dans le temps. Alors, d'accord, je suis heureux maintenant, je me réjouis, il m'arrive des événements favorables et je suis très content, mais au fond de moi-même, je sais très bien que cette joie durera que le temps qu'elle durera. Alors, ça ne veut pas dire que le malheur l'emporte sur le bonheur, en quelque sorte, mais ça veut dire que de par l'existence du malheur, le bonheur a un drôle de goût. C'est bizarre, hein, comme pensée, mais c'est quelque chose qui est dans le bouddhisme et où on pense, en quelque sorte, que la vie humaine, au fur et à mesure, nous familiarise avec cette pensée. C'est peut-être une pensée qui n'est pas du tout acceptable, imaginable pour l'enfant, mais c'est une pensée qui est acceptable pour l'homme mûr. Et quand on va étudier... Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est quand même pas très gai. Hein, les fois prochaines, ça sera un peu mieux, hein, je vous le promets, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais justement, comme je vous l'ai dit, dans la réflexion stratégique qui est celle du bouddhisme, et qui était celle donc du Bouddha, c'est très important d'identifier l'adversaire. On ne part pas au combat sans armes. Et donc c'est important de savoir à qui on a affaire. Donc le bouddhisme n'essaie pas du tout de minimiser, c'est pas du tout un optimisme actif et béat. Le bouddhisme n'essaie pas du tout de minimiser la partie sombre de la vie. Au contraire, il dit s'il y a quelque chose contre quoi il faut lutter, c'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre un adversaire que de le connaître. Alors, ce terme dukkha, donc que je traduis par souffrance, vous allez voir qu'on étudiera les différentes sortes de souffrances, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler une souffrance immédiate, c'est-à-dire que telle chose m'est insupportable et donc ça me fait souffrir, mais on verra qu'il y a tout un phénomène psychologique d'amplification de la souffrance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'esprit développe des procédés qui font que la souffrance d'elle-même peut s'amplifier. Par exemple, il y a tout un aspect de la souffrance qui me porte, enfin, qui nous porte à imaginer des choses qui pour nous pourraient être terribles. Mais ce n'est pas parce qu'on les imagine qu'elles arrivent, mais le seul fait que je m'inquiète de quelque chose. Alors parfois on peut s'inquiéter à raison, parfois on s'inquiète et sans fondement, mais une bonne partie de la souffrance, c'est de la souffrance qui est créée par soi-même, peut-être d'une manière légitime, hein, mais justement vis-à-vis de deux choses qui théoriquement ne devraient pas encore nous faire souffrir. Il y a toute une part d'appréhension. Il y a aussi toute une part, je ne sais pas comment on peut dire, mais d'incomplétude, de manque en nous. Et ça, on souffre également de manque. On souffre également donc de choses qui ne sont pas là. C'est très étrange, hein, mais c'est comme ça. Mais tout le monde l'a expérimenté. Alors, essentiellement, dans beaucoup d'écoles bouddhiques, on distingue le système des 4 et des 8 souffrances. Donc, je vous dis, aujourd'hui, c'est pas spécialement gai. Le système des 8 souffrances, en fait, c'est le système des 4 souffrances plus 4 autres qu'on met en plus. Comme ça, on est sûr de manquer de rien. Et on verra par la suite qu'il y a également un système qu'on appelle des 3 souffrances, qui est peut-être plus philosophique. Alors, les 4 souffrances par lesquelles passent tous les êtres, C'est la naissance, la maladie, le vieillissement et la mort. Tout ça, ce sont des épreuves douloureuses, qu'elles soient douloureuses en elles-mêmes ou par la représentation que nous en avons, ce qui est encore une autre chose. Alors, d'après la tradition bouddhique, probablement, à ce niveau-là, probablement légendaire, le Bouddha, bien avant qu'il devienne un Bouddha, bien avant même qu'il décide de mener la vie d'ascète, serait sorti par trois fois de sa résidence. Et, parce que vous savez, dans les légendes bouddhiques, on dépeint le Bouddha comme étant une sorte de fils de prince, de fils de roi. La réalité était sans doute tout à fait autre. Et on dit que son père aurait eu, par un devin, une prédiction selon laquelle il deviendrait ou bien un grand roi, donc le fils, le prince, ou bien un ascète. Et donc, le père ne voulant pas que le fils devienne un ascète, et pour ne pas que justement il soit confronté à la souffrance du monde, le gardait dans leur château, dans leur résidence bien au chaud, et faisait qu'il n'était pas en contact avec la souffrance du monde. Mais le jeune prince, par trois fois, fit des incursions dans la ville réelle, et sorti du château qui était un lieu de luxe et tout ça. Enfin bon, tout ça c'est légende, hein, mais je vous le dis quand même, parce que ce que vous trouvez dans la plupart des bouquins sur le bouddhisme, le seul problème, c'est qu'ils ne vous disent pas que c'est des légendes dans la plupart des cas. Et donc, au fil de ces trois sorties, il verra un homme malade, il verra un vieillard reclus qui n'arrive pratiquement plus à se tenir debout, et il verra un cortège funèbre. Et la quatrième sortie, il verra un ascète, et donc il décidera que c'est la voie que lui veut suivre, c'est-à-dire la voie de l'ascète. Et donc, au fil de ces trois étapes, donc évidemment, bon, il n'aura pas été confronté à la naissance, parce qu'il est déjà né, mais il aura été confronté finalement à la maladie, au vieillissement et à la mort. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est quand même une vue de la vie, qui est également une vue, on pourrait dire, presque d'une certaine manière physiologique, parce que c'est vrai qu'on vient à la vie, à la naissance, bon, aucun de nous, je suppose, ne s'en rappelle, mais même physiquement, ça va être une drôle d'expérience. Hein. Et à mon avis, c'est pas forcément très... très enfin, pourtant, chacun de nous est passé par là, hein, mais je suppose que c'est pas forcément extrêmement confortable. Et ça va passer par quand même, au niveau physique, ça va bouger pas mal. La maladie, ben, surtout les maladies, certaines peuvent être extrêmement douloureuses, hein, y a pas de... Malheureusement, c'est comme ça. Le vieillissement au fur et à mesure, donc nous sommes privés d'un certain nombre de capacités physiques qui ont pu être les nôtres. Et la mort également, c'est une expérience qui, je suppose, doit être une expérience importante. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que même là, on ne parle pas d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de la mort, je ne prétends pas, et le bouddhisme non plus ne prend pas, que forcément le fait de mourir, au moment où l'on meurt, est quelque chose qui est douloureux en soi. Il y a des cas où ça va être très douloureux, peut-être des cas où ça ne l'est pas du tout, mais l'appréhension de la mort est quelque chose qui est douloureux en général. Parce que ces souffrances ne sont pas forcément, bien qu'on parle finalement d'étapes physiologiques, telles que la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, ce sont des étapes du corps. Mais vis-à-vis de ça, nous avons des représentations mentales qui sont même souvent beaucoup plus douloureuses, ou pas, mais dans beaucoup de cas, je suppose que c'est le cas, que ces choses-là par elles-mêmes. Donc il y a tout un phénomène d'amplification par le mental de la souffrance, et en même temps, il ne faut pas considérer ces choses uniquement d'un point de vue, comme on peut dire, personnel. C'est-à-dire que je suis également touché, non seulement par ma propre maladie, par mon propre vieillissement ou par ma propre mort, mais je suis également touché par la maladie, le vieillissement ou la mort des êtres qui me sont chers. Je veux dire, le fait de perdre des êtres qui nous sont chers sont parmi les expériences les plus terribles de cette existence. Pareil, je veux dire, une maladie ou le fait de voir quelqu'un que l'on aime qui vieillit, si ça ne se passe pas bien ou quoi que ce soit, c'est également des choses, ce sont des expériences douloureuses en elles-mêmes. Et ce sont des expériences qui marquent l'être. Alors, je vous ai parlé de. Hein, je vous avais dit que ce soir, ce ne serait pas très gai. Hein, là, vous pouvez même dire le contraire. Je vous ai parlé donc de ces quatre souffrances, mais on ne va pas en rester là. Hein. Il y a également le système que l'on appelle des huit souffrances. Alors là, on va voir que c'est davantage. Ça, on pourrait dire que ce sont des étapes physiologiques de la vie. Et finalement, vis-à-vis de ces quatre, on en rajoute quatre autres. Donc, je ne sais pas si je vais les marquer ou si je vais juste vous les dire. Et qui sont des choses, si vous voulez, que tout le monde a expérimenté, la fréquentation de ceux que l'on déteste. La vie, en société, peut nous porter, dans le travail, à l'école, là où vous voudrez, dans l'immeuble où on habite ou quoi que ce soit, à se retrouver finalement avec des personnes avec lesquelles ça ne va pas du tout. Eh bien, c'est une souffrance. Je crois que tout le monde l'a expérimenté, hein. Et c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. L'inverse est également une souffrance, la séparation d'avec ceux que l'on aime. Donc on peut se retrouver avec ceux qu'on déteste et puis ne pas être avec ceux que l'on aime. Donc là on a tout à la fois pour être heureux. Donc vous voyez, le bouddhisme est quand même une drôle de doctrine, hein. Tout ça a été analysé extrêmement en détail. On parle de la souffrance dans le bouddhisme, donc vous avez quand même beaucoup de textes, on parle de la souffrance globalement, ce que ça représente, les phénomènes d'amplification de la souffrance, etc. Mais on en parle également dans le détail. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Alors, je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais à la fois le fait d'être réuni avec les gens qu'on déteste ou le fait d'être séparé de ceux qu'on aime, bon, c'est quelque chose que chacun a pu expérimenter. La septième souffrance, c'est la non-obtention de ce que l'on désire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous portent toujours à désirer autre chose. Parmi ces choses qu'on désire, il y en a certaines que nous obtiendrons, et puis il y en a d'autres qu'on n'obtiendra pas. Et souvent, celles qu'on obtient, une fois qu'on les a obtenues, c'est déjà plus grand-chose. Et celles qu'on n'a pas obtenues, par contre, on continue à les vouloir. Et donc, bon, bah, c'est le phénomène global de la frustration, hein. Et c'est quelque chose qui est puissant et c'est quelque chose qui est effectivement douloureux. Alors c'est peut-être une. Là, on voit qu'on arrive à des souffrances qui durent dans le temps. C'est-à-dire que ce soit le fait d'être réuni avec des gens qu'on n'aime pas ou le fait de subir la frustration, c'est des choses qui durent longtemps et qui au fur et à mesure quand même laminent l'individu. La huitième souffrance, alors là c'est plus difficile à comprendre, c'est le. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'apesantir dessus parce que c'est quelque chose qu'on verra davantage en détail. En fait, le bouddhisme dit que ce que nous appelons l'être, c'est-à-dire c'est à la fois l'individu et le monde, c'est dans le bouddhisme, on appelle ça les cinq éléments. On dit que ce sont cinq éléments, dans certaines traductions, on dit les cinq agrégats. Je trouve que le terme n'est peut-être pas très, très juste à mon avis. Mais, c'est-à-dire que là où nous, on voit un être, hein, le bouddhisme voit cinq choses qui se rassemblent et qui donnent, pour le sujet, l'impression qu'il est un être et qu'il est entouré d'un environnement qu'on appelle le monde ou l'univers ou ce que vous voudrez. Alors que, du point de vue du bouddhisme, tout ça est une chose qui se trouve provisoirement unie et cette chose qui se trouve provisoirement unie est formée de cinq éléments. Qui sont les formes, la perception, la conception, conceptualisation, c'est pas une traduction, la volition, c'est le fait de passer à l'acte, et la conscience. Alors, je n'ai pas envie de m'étendre aujourd'hui dessus, parce que c'est des choses qu'on verra, les 12 liens causaux, c'est des choses qu'on verra extrêmement bien en détail. L'idée globale, c'est-à-dire l'idée de la vie, c'est un peu celle-là, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui existent. Par exemple, le piano, la chose qui est là, etc. Donc, ça forme une sorte de, on pourrait dire, de premier cercle. Ça pénètre en moi, en nous, par le biais de la perception. C'est-à-dire que mes yeux voient le piano qui est là. Mais quand mes yeux le voient, ce n'est qu'une masse marron qui a une certaine forme, etc. C'est immédiatement associé à des concepts, conceptions. Et donc, vis-à-vis de cette forme, etc., évoque en moi l'idée du piano, de la musique, ou peut-être que si quelqu'un d'autre voit la chose, ça va lui évoquer complètement autre chose. Et à partir de là, il va y avoir un acte. Il y a quelque chose qui me pousse à l'acte. Alors, peut-être que l'acte, ça va être que je dis, je ne vais pas jouer du piano. Je vais rien en faire de ce piano, bien que je le voie. Ou peut-être que je vais dire, je vais faire un morceau. Enfin bon, là, c'est un exemple, si vous voulez, qui est très précis. Et au centre de tout cela, il y a de la conscience. C'est une activité qui permet de séparer les éléments du réel et de comprendre. Alors aujourd'hui, bon là je vous l'ai dit un peu rapidement, je suis un peu désolé d'amener beaucoup d'informations comme ça, mais c'est quelque chose que par la suite, c'est-à-dire le fonctionnement global du mental, c'est important, mais c'est quelque chose qu'on verra extrêmement bien en détail dans à peu près trois sessions. Mais donc, le bouddhisme, donc c'est pour revenir à cette affaire avec la huitième souffrance, dit que le fonctionnement de cette entité qui produit à la fois le sujet et le monde, donc c'est pas rien, je veux dire, c'est toute l'expérience de ce qu'on a de la vie, que le fonctionnement de cela est en lui-même un phénomène douloureux. Non pas d'une douleur aiguë comme une douleur physique, si d'un coup il y a, je sais pas, une guêpe qui me pique ou quelque chose comme ça, mais une sorte simplement le fait que tout cela fonctionne est quelque chose qui produit une sorte de douleur sourde, dont on ne se rend pas compte, parce que nous, on ne connaît que cela, on ne connaît que ce fonctionnement-là. Exactement, si vous voulez, tout le monde a déjà fait l'expérience. Par exemple, vous avez un appareil électrique ou autre qui marche et qui produit une vibration, qui produit un bruit. Eh bien, si ce bruit continue, vous ne vous en rendez pas compte. Par contre, au moment où d'un coup quelqu'un arrête l'appareil, vous avez une impression de soulagement. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui bourdonnait en nous, qui bourdonnait à nos oreilles, même si ce n'était pas un bruit épouvantable. La preuve, c'est qu'on ne distinguait pas ce bruit des autres choses. Je pense que tout le monde a déjà eu cette expérience. Et d'un coup, cette machine s'arrête et on se sent libéré de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui, auparavant, ne nous nuisait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que le fonctionnement même du vivant, dans cette vue-là, produit une forme de souffrance, on pourrait dire légère mais continue, mais dont on ne se rend pas compte. Oui, bon, les autres sont sympas aussi, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, mais les autres, j'y reproduisent également quelque chose. Alors, ça, c'est le système donc des quatre souffrances donc, que l'on avait vues, naissance, maladie, vieillesse et mort, auxquelles vient de se rajouter la fréquentation de ce qu'on n'aime pas, la séparation d'avec ce qu'on aime, la non-obtention de ce que l'on désire, et le fonctionnement global de ce qu'on pourrait appeler le vivant. Et donc ça, c'est le système de ce qu'on appelle les huit souffrances, qui constituent la vie. Et il y a un autre système, où là aussi je vais passer de manière un peu rapide, qui est plus philosophique, qui est le système qu'on appelle des trois souffrances. Ce système des trois souffrances, c'est la douleur, la souffrance de la détérioration et la souffrance de la fugacité. Alors la souffrance de la douleur, je ne m'étendrai pas dessus, hein, c'est simplement qu'il y a souffrance parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait mal. Les autres souffrances, la détérioration et la fugacité sont plus... philosophique, en quelque sorte, et la fugacité. La détérioration, c'est la souffrance qu'on éprouve en voyant que quelque chose, justement, ou soi-même, ou quelqu'un, se détériore. Donc c'est ce sentiment qu'amène justement on pourrait dire, le passage du temps, d'une certaine manière, et selon quoi tout ce qui a été uni se trouvera désuni. Et alors la fugacité, c'est assez proche, mais c'est peut-être plus rapide. Plus philosophique aussi, je pense, comme sentiment. C'est un peu ce qu'on voyait à l'époque classique dans ce qu'on appelait les leçons des ténèbres, par exemple. C'est-à-dire que ce qui est ne sera plus. Et donc, cette espèce de fugacité du vivant, qui est un des thèmes majeurs d'ailleurs de la poésie en Extrême-Orient. Beaucoup de poésie, par exemple, les amis avec qui nous contemplions la lune, comme la lune s'en sont allées derrière les nuages, etc. Bon, c'est très beau. Et cette idée que ben, les choses passent. Et donc, ce sentiment que les choses passent provoque en nous une forme de souffrance. Alors, oui.
C'est synonyme d'impermanence.
Oui, tout à fait. Cette fugacité, c'est le sentiment de l'impermanence, on pourrait dire. Je voudrais quand même dire quelques mots, quitte à revenir par la suite dessus, sur quand même la deuxième vérité, celle de l'apparition. Parce que là, en fait, tant qu'on a vu que la souffrance, c'est un constat. Les choses qu'on a dites, le fait que l'on naisse, que l'on meurt, que l'on peut tomber malade, vieillir, etc., ce sont des choses, je veux dire, c'est un constat. Même si le bouddhisme développe ça énormément et d'une manière très fine, mais c'est néanmoins un constat. L'apparition, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a de la souffrance, finalement, quelles sont les causes qui permettent cette apparition de la souffrance. Alors, l'apparition, en fait, le terme sanskrit, on dit samudaya. Le terme, alors c'est un terme qui n'est pas très clair, d'ailleurs, bon, moi je l'ai traduit par apparition, qui n'est pas non plus très explicite en français. C'est le terme exactement désigne les causes qui permettent que les choses s'assemblent pour se produire. C'est-à-dire, on pourrait dire, le terrain favorable. Il y a des causes. Dans le bouddhisme, une chose ne se produit jamais pour une cause unique. Il y a toujours, il faut à la fois qu'il y ait une cause, qu'il y ait une première, une cause seconde, qu'il y ait un terrain favorable, qu'il y ait tout ça à la fois. Et donc, c'est cette espèce de terrain favorable qui permet l'apparition de la chose. On pourrait dire que c'est ce qui fait qu'un état potentiel devient un état actuel. On pourrait dire que c'est également un révélateur. Hein. Dans beaucoup d'ouvrages que vous trouverez sur le bouddhisme, beaucoup d'ouvrages d'initiation, de présentation, on vous dit que on traduit cette deuxième vérité par la vérité du désir. Je pense que c'est en partie vrai, mais c'est en grande partie réducteur. Parce qu'on verra qu'il n'y a pas que le désir qui fait que, même si c'est un élément moteur extrêmement puissant, mais il n'y a pas que le désir qui fait que la souffrance apparaisse. On verra quand on étudiera les 12 liens causaux, le point de base des 12 liens causaux est une notion justement qui est liée au désir ou au désir ancien. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus. En chinois, ils l'ont appelé. Ils ont traduit ça parce que, évidemment, eux aussi, ils ont eu les mêmes problèmes que nous pour traduire. Ils ont mis. Donc, j'enlève Samudaya. On a mis le terme chi en chinois. Qui se prononce chou en japonais. C'est ce terme-là, qui d'ailleurs, comme le terme qu'on avait vu avant pour la souffrance, peut se diviser en deux parties. Et en deux parties, parle pareil, c'est-à-dire avec une partie haute et une partie basse. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est droite et gauche, et parfois, il y a une partie, ou parfois, il y en a même trois. Alors, la partie haute, qui maintenant est assez peu représentative, parce qu'elle était quand même très stylisée. À la base, c'est cette chose-là qui désignait un oiseau à courte queue. Alors, j'ai déjà vu sur des graphies anciennes chinoises, mais je suis pas très bon dessinateur. Mais c'est vrai qu'avec la notion de, alors, je sais pas exactement comment il faut faire, hein, mais je sais pas quoi, enfin un truc qui ressemble un peu à un oiseau. Finalement, on est arrivé en stylisant. Bon, je suis pas un bon dessinateur, hein, mais sur des livres d'étymologie, on voit mieux. On est arrivé à cette chose-là. Donc, qui désigne un oiseau à courte queue comme un moineau ou ce genre d'oiseau. À la base, la partie basse, j'enlève tout de suite le truc grotesque que j'ai fait, voilà, hop. La partie basse désigne un arbre, qu'on voit bien hein, avec le tronc de l'arbre, des branches médianes et puis des branches plus vieilles qui, comme ça. Et donc, la chose désigne un oiseau à courte queue sur un arbre. À l'origine, le caractère initial, en fait, il y avait trois oiseaux. Maintenant, ce caractère n'existe plus depuis longtemps. Hein. Mais à l'origine, il s'écrivait comme ça. Donc, il y avait trois oiseaux sur un arbre, et ça signifiait donc se rassembler. C'est-à-dire, d'un coup, Pourquoi c'est sur cet arbre-là et pas sur un autre, on ne sait pas, mais il y a plein de petits oiseaux qui viennent. Et donc, et là, on a vraiment l'impression d'un rassemblement. Et donc, à l'origine, le terme signifiait que d'un coup, sur un arbre précis, eh bien, il y a plein d'oiseaux, peut-être parce qu'il est mieux situé ou je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a plein d'oiseaux qui sont venus. Donc, le sens du caractère est se rassembler, s'unir. Et donc, nous sommes dans cette notion où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de causes qui se réunissent pour finalement produire un phénomène. Donc, il y a des causes multiples, comme nos petits oiseaux qui sont là, qui viennent sur cet arbre, et qui permettent donc de créer le terrain pour quelque chose. Alors, il y a trois facteurs d'apparition de la souffrance. Le premier, c'est l'attachement au désir. Le deuxième, c'est l'attachement à l'existence. Et le troisième, c'est l'attachement à l'anéantissement. Et donc, le bouddhisme dit que dans les actions qui vont être les nôtres et qui vont finalement entraîner le processus du vivant et le processus de la souffrance, on trouve ces trois attachements fondamentaux qui d'ailleurs sont en partie antagonistes les uns des autres. Hein, ils travaillent chacun pour leur compte, parce qu'on voit bien qu'entre l'attachement à l'existence et l'attachement à l'anéantissement, c'est exactement le contraire. Mais il y a en chacun de nous ces deux attachements à la fois. Il y a à la fois quelque chose qui me pousse à la survie, quoi qu'il arrive, et également quelque chose qui me pousse à détruire, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas les deux choses qui s'expriment forcément au même moment, mais ces choses-là existent. Alors, l'attachement au désir, il s'agit de l'attachement aux objets de satisfaction des cinq sens perceptifs, à savoir la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Une autre explication, plus tardive et moins sûre, parle de l'attachement à cinq désirs, qui sont les biens, les possessions, hein, la sexualité, la nourriture, la boisson, la renommée et le sommeil. Donc il y a cinq désirs qui s'expriment sous la forme de posséder, de la sexualité, de la nourriture. La nourriture et la boisson, ça en fait un seul, hein, la renommée et du sommeil. Donc il y a en nous ces cinq attachements qui existent. L'attachement à l'existence, il est fondé sur la perception de l'existence d'un ego. C'est parce que j'ai l'impression que j'existe que je continue à exister. Enfin, ça paraît assez idiot de le dire comme ça, mais c'est pourtant comme ça que cela se manifeste. Cet attachement vise à la perpétuation de l'ego, même si au bout du compte, on sait très bien que c'est une opération qu'on n'arrivera pas à mener à son terme, enfin qu'on n'arrivera pas à mener jusqu'au bout. Différentes vues, notamment des vues par exemple d'une sorte de paradis post-mortem, ou du fait on vit à travers nos enfants et les enfants de nos enfants et encore dans 100 générations, ou tout ce genre de choses, c'est également une manière dont se manifeste l'attachement à l'existence. Le troisième, c'est l'attachement à l'anéantissement ou à l'inexistence. C'est tout ce qui se traduit par des formes de rejet. Je rejette ce monde qui est imparfait, l'attrait du vide, désirer le repos, l'autodestruction sous toutes ses formes, hein, elles sont nombreuses. Tout ça, ça manifeste finalement des désirs très puissants. Alors, pour terminer donc, on aura passé un petit peu vite mais, sur cette deuxième vérité de l'apparition, mais ça valait la peine comme de voir les choses un peu dans le détail. Donc, le bouddhisme ne distingue pas un désir qui serait une sorte de désir primordial. Donc, en général, pour beaucoup de choses, le bouddhisme ne distingue pas grand-chose qui soit primordial. Il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de, il y a pas une chose fondamentale dont tout découlerait. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans cette idée où un peu tout découle de tout. D'ailleurs, il s'intéresse moins à la nature ou à l'objet du désir qu'à simplement son existence. Il y a quand même toujours dans le bouddhisme, nous, en français, c'est vrai qu'on confond, parce que c'est le même mot, je ne sais pas comment dire, le désir et l'objet du désir. Quand je dis « je veux ça », je ne sais pas, quand on voit par exemple ton père tout à l'heure, par exemple le désir qui sont liés à la renommée, à la sexualité, etc., le sujet est désirant. C'est-à-dire que on ne fait pas bien la distinction entre la force qui fait que l'on désire. On est tellement omnibulé, en quelque sorte, par le travail de cette force, qu'on confond, je ne sais pas si je suis très clair, mais la force qui fait que l'on désire quelque chose avec l'objet du désir. C'est le même mot en français. Mon désir est de... Quand je dis mon désir est de ceci, cela, non. Quand je dis mon désir est de ceci, c'est l'objet de mon désir. Ce que je voudrais, c'est ça. Tel bien, telle personne, tel, etc. Ça, c'est l'objet du désir. Mais le désir lui-même, c'est la force désirante. Et quand j'aurai ce qui était l'objet de mon désir, je peux m'en lasser extrêmement vite. Chacun de nous a déjà fait cette expérience. Même souvent, une chose était extrêmement désirée, extrêmement désirée, extrêmement désirée, et finalement, on l'a. Et hop là, on veut autre chose. Donc, c'est qu'en fait, ce qui était important, ce n'était pas forcément l'objet du désir, que la force qui pousse à désirer. Et cette force est une forme d'attachement. Et donc, on verra les fois prochaines que cette forme d'attachement est ce qui permet l'apparition de la souffrance. Et on verra ensuite, comment dirais-je, de manière plus, un peu moins triste, peut-être que ça a été aujourd'hui, mais il faut en parler aussi, l'autre côté de, justement, de ces quatre vérités, c'est-à-dire qu'après que le mal a été identifié, après que les causes du mal ont été identifiées, eh bien, on va identifier ce vers quoi on veut aller et par quels moyens on va y aller.